Chapitre 12. La salle de bain est à côté de la chambre à coucher. Elle est tapissée de papier à petites fleurs bleues, des myosotis, avec des rideaux assortis. Il y a un tapis de bain bleu, une housse bleue en imitation de fourrure, sur le siège des WC. Tout ce qui manque à cette salle de bain par rapport au temps d'avant, c'est une poupée, dont la jupe masquerait le rouleau de rechange de papier hygiénique. À ceci près que le miroir au-dessus du lavabo a été enlevé et remplacé par un ovale en étain, que la porte ne ferme pas à clé, et qu'il n'y a pas de rasoir, bien sûr. Il y a eu des incidents dans les salles de bain au début. On s'y coupait, s'y noyait, avant qu'il n'élimine tous les petits trucs qui clochaient. Cora est assise sur une chaise dehors dans le couloir pour s'assurer que personne d'autre n'entre. « Dans une salle de bain, une baignoire, on est vulnérable, » disait tante Lydia. Elle ne disait pas à quoi. Le bain est une obligation, mais c'est aussi un luxe. Simplement me débarrasser des lourdes ailes blanches et du voile, simplement toucher de nouveau ma propre chevelure avec mes mains, constitue un luxe. J'ai les cheveux longs maintenant, non coiffés. Les cheveux doivent être longs mais couverts. Tante Lydia disait « Saint Paul dit que c'est soit cela, soit le crâne rasé. » Elle riait de son hennissement retenu comme si elle racontait une histoire drôle. Cora a fait couler le bain. Il fume comme un bol de soupe. J'ôte le reste de mes vêtements, la robe de dessus, la chemise et le jupon blanc, les bas rouges, les pantalons larges en coton. « Les collants, ça vous pourrit l'entrecuisse !» disait Moira. Tante Lydia n'aurait jamais utilisé une expression telle que « pourrir l'entrecuisse ». Elle disait « anti-hygiénique ». Elle souhaite que tout soit très hygiénique. Ma nudité me semble maintenant étrange. Mon corps me paraît démodé. Est-ce que vraiment je portais des maillots de bain à la plage? Mais oui, sans y réfléchir, au milieu d'hommes, sans me soucier que mes jambes, mes bras, mes cuisses et mon dos fussent exposés, puissent être vus. Honteux, impudique. J'évite de porter les yeux sur mon corps, pas tellement parce qu'il est honteux ou immodeste, mais parce que je ne veux pas le voir. Je ne veux pas voir quelque chose qui me détermine si complètement. J'entre dans l'eau, je m'allonge et la laisse m'en serrer. L'eau est douce comme des mains. Je ferme les yeux et elle est là, avec moi, soudain, sans crier gare. Ça doit être le parfum du savon. Je mets mon visage contre les cheveux doux de sa nuque et je la hume. Poudre pour bébé, peau d'enfant lavée et shampoing. Et sous-jacente, une faible odeur d'urine. C'est l'âge qu'elle a quand je suis dans mon bain. Elle me revient à des âges différents. C'est ainsi que je sais qu'elle n'est pas vraiment un fantôme. Si c'était un fantôme, elle aurait toujours le même âge. Un jour, quand elle avait 11 mois, juste avant qu'elle ne commence à marcher, une femme l'a volée dans un caddie de supermarché. C'était un samedi, jour où Luc et moi faisions le marché de la semaine, car nous travaillons tous les deux. Elle était assise sur le petit siège qu'avaient alors les caddies de supermarché, avec des trous pour les jambes. Elle était toute heureuse, et j'avais tourné le dos. Je crois que c'était au rayon des aliments pour chats. Luc était à l'autre bout du magasin, hors de vue, au rayon de la boucherie. Il aimait choisir la viande que nous allions manger pendant la semaine. Il disait que les hommes avaient besoin de plus de viande que les femmes, que ce n'était pas une superstition, et qu'il ne disait pas d'idiotie, que des études avaient été faites. « Il y a des différences », affirmait-il. Il aimait dire cela, comme si j'avais essayé de prouver le contraire. Mais il le disait surtout quand ma mère était là. Il aimait la taquiner. Je l'ai entendu se mettre à pleurer, je me suis retournée et l'ai vue disparaître au fond d'une allée, dans les bras d'une femme que je n'avais jamais vue de ma vie. J'ai crié. On a arrêté la femme. Elle devait avoir dans les 35 ans. Elle pleurait, disait que c'était son bébé, que le Seigneur le lui avait donné, lui avait envoyé un signe. Le gérant du magasin a présenté des excuses et ils l'ont retenu jusqu'à l'arrivée de la police. C'est juste une dingue, a dit Luc. J'ai cru sur le moment que c'était un incident isolé. Elle s'estompe. Je ne peux pas la garder ici, avec moi. Elle est partie à présent. Peut-être que je pense à elle comme à un fantôme. Le fantôme d'une fillette morte. Une petite fille qui est morte quand elle avait 5 ans. Je me rappelle les photographies de nous que j'avais jadis. Elle dans mes bras, des poses classiques, mère et enfant, enserrées dans un cadre, par sécurité. Derrière mes paupières fermées, je me vois telle que je suis maintenant, assise à côté d'un tiroir ouvert ou d'une malle, à la cave, où les vêtements de bébé sont soigneusement rangés, une boucle de cheveux, coupée quand elle avait 2 ans, dans une enveloppe, blond blanc. Ils ont foncé plus tard. Je ne possède plus ces choses-là, les vêtements, les cheveux. Je me demande ce qu'il est advenu de toutes nos affaires. Pillées, jetées, emportées, confisquées. J'ai appris à me passer de beaucoup de choses. Quand on possède beaucoup de choses, disait tante Lydia, on s'attache trop à ce monde matériel et on oublie les valeurs spirituelles. Vous devez cultiver la pauvreté du cœur. Heureux les humbles. Mais elle ne disait pas qu'on aurait la terre en partage. Je gis, caressé par l'eau, à côté d'un tiroir ouvert qui n'existe pas, et pense à une petite fille qui n'est pas morte quand elle avait 5 ans, qui est encore vivante, j'espère. Quoique pas pour moi. Est-ce que j'existe pour elle? Suis-je une image quelque part, dans le noir, au tréfonds de son esprit? Ils ont dû lui dire que j'étais morte. C'est le genre de choses qu'ils penseraient à faire. Ils auront dit qu'elle s'adapterait plus facilement ainsi. 8 ans. Elle doit avoir 8 ans. J'ai rempli le temps que j'ai perdu. Je sais combien il s'en est passé. Ils avaient raison. C'est plus facile de penser à elle comme à une morte. Alors je n'ai pas besoin d'espérer ou de faire de vains efforts. Pourquoi, disait tante Lydia, se cogner la tête contre les murs? Elle avait parfois une façon imagée de décrire les choses. J'ai pas toute ma journée, dit la voix de Cora derrière la porte. C'est vrai, elle serait plutôt démunie. Je ne dois pas la priver de son temps. Je me savonne, me frictionne à la brosse et utilise la pierre ponce pour gommer les peaux mortes. Ces accessoires puritains sont fournis. Je veux être totalement propre, sans un microbe, une bactérie, comme la surface de la lune. Je ne pourrai pas me laver ce soir, ni après non plus, pendant toute une journée. Cela perturbe, dit-on. Et pourquoi prendre des risques? Je ne peux éviter de voir à présent le petit tatouage sur ma cheville. 4 chiffres et 1 œil. Un passeport à l'inverse. Il est censé garantir que je ne pourrai jamais me fondre définitivement dans un autre paysage. Je suis trop importante, trop rare pour cela. Je suis une ressource nationale. Je tire la bonde, me sèche, passe mon peignoir éponge rouge. Je laisse la robe d'aujourd'hui ici. Cora la ramassera pour la faire laver. De retour dans ma chambre, je me rhabille. La coiffure blanche n'est pas nécessaire le soir, car je ne vais pas sortir. Tout le monde dans cette maison connaît mon visage. Je remets pourtant le voile rouge qui couvre mes cheveux humides, ma tête qui n'a pas été rasée. Quand ai-je vu ce film, qui montrait des femmes agenouillées sur la place de la ville, retenues par des mains, les cheveux tombant par touffes? Qu'avait-elle fait? Il doit y avoir longtemps de cela, car je n'arrive pas à m'en souvenir. Cora apporte mon dîner, recouvert sur un plateau. Elle frappe à la porte avant d'entrer. Je lui en sais gré. Cela veut dire qu'elle croit qu'il me reste un peu de ce que nous appelions vie privée. Je dis « Merci », tout en lui prenant le plateau, et elle me sourit pour de vrai, mais se détourne sans répondre. Quand nous sommes seuls, je l'intimide. Je pose le plateau sur la petite table peinte en blanc et je rapproche la chaise. J'ôte le couvercle du plateau. La cuisse de poulet, trop cuite. C'est mieux que saignante, qui est son autre recette. Rita a des moyens de faire entendre sa rancune. Une pomme de terre au four, des haricots verts, de la salade. Des poires en conserve comme dessert. C'est une nourriture assez bonne, quoique fade. Alimentation saine. « Il vous faut vos vitamines et vos sels minéraux, » disait tante Lydia en minaudant. « Vous devez être des réceptacles parfaits. Mais pas de café, de thé, ni d'alcool. Des études ont été faites. » Il y a une serviette en papier, comme dans les cafétérias. Je pense aux autres, aux démunis. Ici, c'est le centre stratégique. Je mène une vie douillette, que le Seigneur soit remercié, disait tante Lydia. Ou était-ce loué ? Et je commence à manger mon repas. Je n'ai pas faim ce soir. Je me sens nauséeuse. Mais il n'y a nulle part où mettre les aliments. Pas de plantes en pot. Et je ne veux pas risquer les toilettes. Je suis trop nerveuse. Voilà ce qu'il y a. Est-ce que je pourrais laisser cela sur l'assiette ? Demandez à Cora de ne pas le signaler. Je mâche, avale, mâche, avale, et je me sens transpirée. Dans mon estomac, la nourriture se met en boule. Une poignée de carton humide, écrasée. En bas, dans la salle à manger, il doit y avoir des bougies sur la grande table d'acajou. Une nappe blanche, de l'argenterie, des fleurs, des verres à vin avec du vin dedans. Il doit y avoir un cliquetis de couteau contre la porcelaine. Le tintement de sa fourchette quand elle la repose, avec un soupir à peine audible, en laissant la moitié du contenu de son assiette intouchée. Peut-être dira-t-elle qu'elle manque d'appétit. Peut-être ne dira-t-elle rien. Si elle dit quelque chose, est-ce qu'il réagit ? Si elle ne dit rien, est-ce qu'il le remarque ? Je me demande comment elle fait pour se faire remarquer. Je crois que ce doit être difficile. Il y a une coquille de beurre sur le bord de l'assiette. Je déchire un coin de serviette en papier, enveloppe le beurre dedans, le transporte dans l'armoire et le glisse au fond de la chaussure droite de ma paire de rechange, comme je l'ai souvent fait. Je froisse ce qui reste de la serviette. Personne, sûrement, ne prendra la peine de la lisser pour vérifier s'il en manque un morceau. J'utiliserai le beurre plus tard, cette nuit. Cela ferait mauvais effet, ce soir, de sentir le beurre. J'attends. Je me compose un moi. Mon moi est une chose que je dois maintenant composer, comme on compose un discours. Ce que je dois présenter, c'est un objet fabriqué, pas un objet natif.